Chapitre 66. Richard soutint le regard haineux des Shuntuk qui le regardaient suivre Vika hors de sa prison. Avec les cercles noirs qui entouraient leurs yeux et le reste de leur peau enduite d'une substance blanche, les demi-humains ressemblaient à des squelettes aux orbites vides. Pourtant, ils fixaient Richard comme des prédateurs affamés. Qu'on leur en donne l'ordre ou l'autorisation, et ils auraient en un éclair taillé leur proie en pièces. Dans leurs yeux, Richard crut cependant lire qu'il leur manquait quelque chose. Le lien avec la grâce, et par conséquent avec l'humanité. Et ils étaient vivants, certes, mais désespérément vides. Sauf quand ils attaquaient le détenteur d'une âme. À ce moment-là, la férocité parvenait à leur rendre un semblant d'humanité sur le mauvais versant, celui des tueurs et des fous. Suivis par des dizaines, voire des centaines de Shuntuk, Vika et Richard s'engagèrent dans un dédale de tunnels et de grottes. Derrière les demi-humains, les cadavres ranimés marchaient comme des automates, prêts à se battre dès qu'on leur en donnerait l'ordre. Au bout d'un moment, le sol se mit à descendre, conduisant à une série de cavernes de plus grande taille et d'une configuration plus complexe. Ici, les passages et les ouvertures abondaient tant qu'on en avait le tournis. Certains tunnels aux parois très lisses semblaient avoir été forés par des eaux souterraines, mais ils pouvaient aussi avoir été polis par la main de l'homme. Cet endroit grouillait de Shuntuk, à croire qu'ils sortaient des parois telles des cafards. Après avoir dû se baisser pour passer sous une sorte d'arche naturelle, il semblait qu'un fragment de roche en tombant s'était coincé sous la voûte, Vika et Richard entrèrent dans une immense caverne qui devait être leur destination finale. Les parois incurvées de la grotte, tout comme sa voûte ronde, étaient composées de différentes sortes de roches, dont la couleur allait du brun au blanc, en passant par toutes les nuances de gris veinées de marron. Au fond de la grotte, des stalactites semblables à d'énormes crocs pendaient du plafond au-dessus de stalagmites qui paraissaient garnir la mâchoire inférieure d'une gueule géante. Des milliers de Shuntuk silencieux grouillaient dans l'immense caverne. Il y en avait partout, y compris dans des niches naturelles où ils se pressaient les uns contre les autres. Dans les tunnels, des yeux luisants attestaient que d'autres demi-humains se serraient les uns contre les autres. D'autres étaient perchés sur de grandes colonnes de roches en fusion pétrifiée, et même en hauteur, Richard ne distingua pas une seule ouverture qui n'abritât pas au moins un dévoreur d'âmes à la peau crayeuse. À la lumière des centaines de torches, le sorcier vit que les parois de la grotte brillaient comme si elles étaient incrustées de pierres précieuses. Le sol étant en pente jusqu'au milieu de la grotte, le cercle de Shuntuk semblait former le bord d'une grande coupe blanche. En longue tunique noire, Anis Arc se tenait au centre de cette marée humaine. Même de loin, Richard vit le Seigneur tourner les yeux vers Vika et lui. Sur le chemin de la mort de Sith, les dévoreurs d'âmes s'écartèrent vivement, leur permettant de guider rapidement le prisonnier jusqu'à son maître. Exactement au centre de la grotte, derrière Anis Arc, se dressait un étrange autel de pierre. Comme s'il s'était agi de cire fondue, ses flancs étaient composés de longues coulées de pierres pétrifiées. En approchant, Richard vit qu'un cadavre tout ratatiné gisait sur la plateforme de pierre. Des torches crépitantes disposées tout autour de l'autel illuminaient le corps momifié. De plus près, Richard vit qu'il s'agissait d'une très ancienne dépouille. Sous la peau noire trop fine, on distinguait nettement tous les os du visage et du crâne. Le corps paraissait vieux de plusieurs millénaires. Dans son état actuel, impossible de dire à quoi il avait ressemblé de son vivant. Sur la peau parcheminée, Richard remarqua des traces d'une substance blanche, des cendres pilées ou un autre fragment blanc qu'on aurait dû appliquer sur le cadavre, probablement au moment où on l'avait momifié. Les lèvres desséchées s'étant rétractées, le mort arborait une sorte de sourire éternel. Des deux côtés du nez, des zones plus sombres indiquaient qu'on avait jadis dessiné des cercles noirs autour de ses yeux. Avec leur corps enduit de blanc, leurs yeux cernés de noir et leur sourire de tête de mort peint sur les lèvres, les Shuntuk ressemblaient de façon frappante au cadavre, comme s'ils avaient voulu, en adoptant son aspect, lui rendre un bien sinistre hommage. Quand il fut assez près, Richard vit que le mort était encore vêtu des restes en lambeaux d'un somptueux costume de cérémonie richement orné d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ouverte du menton à la taille, la tunique à demi pourrie laissait voir une cage thoracique desséchée. Plissant les yeux, Richard s'aperçut que les traînées noires sur le tissu étaient du sang séché. Du sang assez frais. Baissant les yeux, le sourcier découvrit que le sol autour de l'hôtel était couvert de sang comme si on avait découpé quelqu'un vivant.
« Bienvenue à la grande cérémonie !» dit Anis Hark.
Richard ne répondant pas, le maître des lieux désigna d'un geste circulaire la foule de Shuntuk.
« Ces nobles guerriers attendent depuis très longtemps l'arrivée du messager de la mort, car il est dit dans les prophéties qu'il redonnera la vie à leur roi. »
À la mention du souverain, tous les demi-humains tombèrent à genoux. Ce mouvement collectif produisit un bruit qui se répercuta un moment sous la voûte, tel le roulis des vagues.
« Que faites-vous dans le pays des Shuntuk ?»
demanda Richard.
« Avec mon aide, les portes qui les retenaient prisonniers se sont enfin ouvertes, leur permettant d'amener ici des vivants dotés d'une âme qui contribueront à réveiller leur roi adoré. Le souverain du troisième royaume, qui deviendra bientôt celui du monde des vivants et du royaume des morts, lorsqu'ils ne formeront plus qu'un. »
En d'autres termes, dit Richard, ces sauvages tentent de ranimer un cadavre avec le sang d'humains vivants dotés d'une âme, mais ça ne se passe pas comme ils l'espéraient.
Le sourire d'Anis Hark fit onduler les tatouages qui couvraient son visage.
Ce n'est pas une façon flatteuse de présenter les choses, mais en gros c'est bien vu. Avec leur grande naïveté, les Shuntuk pensaient que le sang d'hommes dotés d'une âme, des soldats par exemple, redonnerait des forces à leur roi. Puis celui des détenteurs du don était censé lui rendre les pouvoirs qui étaient siens dans le monde des vivants. Interprétant de manière primitive de très anciens textes, ils pensaient que verser du sang chaud sur le cadavre de leur roi suffirait à le ramener à la vie.
« C'est tout ?»
s'écria Richard, incrédule.
« Ils croient que verser du sang sur un mort peut le ressusciter ?»«
Le protocole est quand même plus complexe que ça. Même s'ils ne le comprennent pas entièrement, les Shuntuk sont moins ignares que vous l'insinuez. En plus du sang de vivant doté d'une âme, il faut ajouter plusieurs rituels d'une très noire sorcellerie, que les Shuntuk pratiquaient bien longtemps avant d'avoir été bannis dans le troisième royaume, des incantations et des sortilèges depuis longtemps oubliés dans le reste du monde, mais pas ici. Tout ce qui manquait, c'était le sang. Et maintenant, ils l'ont.
« Ce n'est pas pour dire, fit Richard, mais leur roi me semble toujours très mort. »
Le sourire d'Anis Hark ne s'effaça pas, mais de l'agacement passa dans ses yeux rouges. Les Shuntuk, en revanche, exprimèrent clairement leur mécontentement. Enfin, clairement pour des gens peinturlurés de blanc aux yeux presque invisibles.
« Ces gens étaient plus près de la vérité que vous le pensez, » dit Anis Hark. « Hélas, ils n'avaient pas accès aux prophéties, sinon ils auraient tout compris. »«
Les prophéties ?»«
Oui. » Les prophéties. Ces pauvres Shuntuk ont pendant des millénaires été coupés des érudits capables de leur apporter les connaissances indispensables à la réalisation de leur antique mission. En les bannissant dans ces terres désolées, on leur a interdit tout contact avec les prophètes et les autres experts en prédiction. Du coup, ils se sont retrouvés comme des enfants abandonnés, avides de connaissances, mais incapables de les acquérir.
Levant une main, Anis Hark fit signe à quelqu'un d'approcher. Une des femmes à la poitrine nue accourut avec, entre les mains, une sorte de bouilloire accrochée à une chaîne ornée de ce qui semblait être des dents humaines recouvertes d'or. Religieusement, elle emplit plusieurs coupes disposées autour du cadavre avec le contenu de sa bouilloire. Une autre femme la suivit et embrasa le liquide avec un tison ardent. Des flammes bleues s'élevèrent en dégageant une âcre fumée jaune. Avant de se retirer, les deux officiantes s'inclinèrent devant la dépouille du roi.
« Si je saisis bien, dit Richard, il leur manquait vos précieuses lumières pour les guider, plus un élément au moins aussi important. »
Anis Hark eut une grimace qui tenait davantage d'un rictus que d'un sourire.
« Oui,
Ils ont attendu très longtemps la venue de quelqu'un d'assez versé dans cette antique sorcellerie et qui sache mettre ses connaissances en pratique. Grâce aux sortilèges et aux recommandations tatouées sur vous, c'est ça? Tous ces anciens symboles du langage de la création?
Anis Hark fronça les sourcils.
Ainsi, vous savez certaines choses sur ces écritures sacrées?
Disons qu'elles ne me sont pas inconnues,
éluda Richard.
Pour résumer, sans vous, ces enfants abandonnés auraient passé leur temps à verser du sang sur la dépouille de leur roi en pure perte.
J'en ai peur, oui. Mais vous savez comment combler leurs lacunes. Très exactement, oui. Selon les prophéties, pour que le rituel agisse, il faut y adjoindre un élément vraiment hors du commun.
Et vous êtes là pour le fournir?
En fait, Seigneur Hall, c'est vous qui allez le fournir à nos amis.
Sous votre supervision, bien sûr.
Anis Hark haussa les épaules.
Il fallait un homme comme moi, adepte des antiques coutumes et des sombres arcanes, et en même temps expert en prophétie, pour saisir la situation dans toute sa complexité et reconstituer les objectifs de ceux qui mirent un jour en mouvement cet extraordinaire processus capable de défier les millénaires. C'est vrai, Seigneur Hall, je suis le seul susceptible d'aider les Shuntuk à accomplir la mission qui leur fut confiée dans un lointain passé.
Je comprends l'utilisation du sang et le recours des rituels de magie noire. C'est primitif, certes, mais logique. En revanche, que viennent faire les prophéties là-dedans?
Elles ont vocation à désigner l'ingrédient extraordinaire dont je parlais tout à l'heure, bien entendu.
Fatigué de ce jeu idiot, Richard soupira d'agacement.
Et de quoi s'agit-il? Pour ramener leur roi à l'existence, les Shuntuk ont besoin que la vie et la mort se mélangent. Pour ça, il leur faut la contribution du messager de la mort, Fuer Grissa Ost Draoka.
Cette fois, Richard ne dit rien. Anis Hark fut ravi par ce soudain mutisme.
Je vois que vous commencez à comprendre. Les Shuntuk, eux, ont du mal. Ils ne saisissent pas que le sang de vivant doté d'une âme ne suffit pas. Ce qu'il leur faut, c'est le fluide vital d'un de leurs semblables, quelqu'un qui appartient au troisième royaume parce que la mort est en lui, mais à condition qu'il soit quand même doté d'une âme. Il n'existe qu'un seul messager de la mort, vous, Richard Rall. C'est vous l'élu.
Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part.
Vous vous moquez de moi parce que je crois aux prophéties. Mais une fois de plus, ce sont elles qui m'ont montré la voie. Pour mépriser les prédictions comme vous le faites, il faut être un crétin, Richard Rall. Aujourd'hui, ça va vous coûter très cher.
Quand la gielle de Vika s'abattit sur sa nuque, Richard cria sans casser les cordes vocales.